Hola, bonsoir à tous et à toutes, je crois que j'ai dit, alors on va mettre aussi à tous, allez. Bonsoir, en tout cas vous êtes à l'écoute de Radio Canu, nous commençons bien cette émission, un tout petit peu à l'heure, mais en avance, à vos montres. Mais nous avons un débat d'idées de savoir est-ce que nous avons le droit de commencer en avance.
En fait, on n'est pas en avance avec l'heure de la pendule de Radio Canu, qui est légèrement, elle, en avance.
Ouais, maintenant. Parce que moi je trouve qu'après, quand vous êtes là pour nous attendre à pile poil l'heure et qu'on a déjà commencé, c'est pas bien.
C'est 19h pile. sur la montre atomique et sur Canu, on a une minute d'avance.
Voilà, allez. En tout cas, nous, il est 19h donc à ma pendule à moi. Et nous sommes le jeudi 27 octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Avec Laurent ce soir, nous allons vous parler d'égalité des droits. Nous irons du côté de l'Ukraine, de la Russie et du côté des dictionnaires aussi. Nous irons aussi du côté de la guerre. Et nous parlerons de soldats et de chars à canon. Nous parlerons de Macron et de son gouvernement. Nous parlerons des trop riches ce soir. Je vais vous parler des trop riches parce qu'il y en a plein et il y en a dont on ne parle pas assez. En tout cas, on va aussi vous parler d'énergie, d'environnement et puis peut-être d'autres choses. Si on a le temps, nous verrons bien tout ça.
Donc c'est à moi d'ouvrir.
Tout à fait.
Eh bien, puisque c'est à moi d'ouvrir, ouvrons. Oui, je commence par une série d'infos autour de l'égalité des droits et notamment autour des enjeux de l'attaque russe sur l'Ukraine, sur l'égalité des droits, puisque ça a un impact direct et indirect. Nous allons parler de ça tout de suite et on commence donc directement par des enjeux ukrainiens. Aujourd'hui, si vous êtes ukrainien, si vous êtes LGBTQ, c'est compliqué. Vous êtes souvent considérés comme des déviants, comme une menace sur la famille dite traditionnelle. Alors, c'est un refrain qu'on connaît en Russie, puisque ça vient de là. C'est Olena Chevchenko, qui est directrice d'Insight, une ONG qui s'occupe des droits des LGBTQ et qui a monté notamment des refuges. Et là, il y a un refuge à Tcherniski, il s'appelle comme ça, qui permet de recueillir les personnes LGBTQ qui seraient à la rue, hein, parce que là-bas aussi c'est compliqué. Alors certes, si on revient un petit peu en arrière, l'Ukraine a aboli sa loi qui criminalisait l'homosexualité lors de l'indépendance en 91. Mais en fait, depuis cette époque-là, la tolérance envers les LGBTQ s'est pas totalement améliorée, pas vraiment améliorée, et on a régulièrement des cas de harcèlement, de stigmatisation, de violence à l'encontre des différentes minorités sexuelles, hier comme aujourd'hui. Il y a 2 ans, une organisation qui s'appelle Nashvit enregistrait par exemple 131 cas de discrimination il y a 2 ans, alors que il y a une dizaine d'années c'était 50. Ça veut dire que ces cas qu'elle enregistre augmentent. Alors le nombre est pas hyper important, mais il y a très très peu de signalements, LGBTQ se cachant en Ukraine comme dans certains pays très conservateurs. Si on se rappelle des images de la première Gay Pride organisée en Ukraine, alors il y en avait eu plusieurs d'annulés, et celle qui a eu lieu, la première en 2013, il y avait 50 manifestants et ils étaient entourés par 1500 policiers qui les protégeaient. Alors les flics étaient du côté du droit et protégeaient les manifestants et les manifestantes. Vous imaginez le rapport de force. Pourquoi? Eh ben parce que les risques étaient énormes, hein, pour ces manifestants et ces manifestantes. Ils les avaient raccompagnés dans différents métros. Il y a eu plein d'organisations pour que les gens ne risquent pas trop, car il y avait des risques d'attaque de la part des conservateurs, de l'extrême droite, de tous ces gens anti-LGBTQ. Ensuite, je refais un peu d'historique avant de parler d'aujourd'hui. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle l'Euromaïdan, la révolution de Maïdan, la révolution de la dignité, enfin ça avait plein de noms, où la question des droits LGBTQ s'est quand même posée. Alors il y avait plein d'autres questions d'abord. Et à cette époque-là, en 2015, le Parlement ukrainien avait introduit un premier changement significatif dans les lois ukrainiennes. C'était sur le Code du travail, donc qui avait été modifié et qui reconnaissait les mêmes droits à tous les travailleurs toutes les travailleuses, quelle que soit leur orientation ou leur identité sexuelle. Donc ça, c'était un progrès en 2015 à la suite d'Euromaïdan. Mais les changements à l'époque qui existaient sur le papier sont pas passés dans la réalité. Il faut dire que Euromaïdan a été aussi l'occasion d'une poussée nationaliste assez forte. Il y a eu les deux dans Euromaïdan. Souvent, on présente que la partie nationaliste, mais il y a eu aussi d'autres choses, du coup. Mais la partie nationaliste a été quand même forte. Et ces groupes politiques de droite, conservateurs, vous les appelez comme vous voulez, qui pouvaient compter sur un soutien d'une grande partie de la population, on recommençait à nouveau à promouvoir une version dite traditionnelle de la famille, un papa, une maman et des enfants. Grosso modo, c'était ça. Donc il y a eu à nouveau un retour des menaces sur ces personnes LGBTQ, alors que les droits s'étaient un tout petit peu améliorés au début des années 2010. Ensuite est arrivée la guerre du Donbass qui n'a pas amélioré les choses. Parce que chaque fois qu'on a une guerre, il y a à nouveau, et c'est le cas actuellement encore plus fort aujourd'hui, quand on a une militarisation quelque part de la pensée et de la société, ça renforce l'image des rôles de genre dits traditionnels. Les hommes sont censés prendre les armes pour défendre leur pays, les femmes sont censées quitter leur pays avec leurs enfants pour les protéger. Et du coup, cette dichotomie très forte a été remise au goût du jour suite à l'attaque russe. Alors il y a pas mal de témoignages. On peut entendre Olena Chevchenko qui explique que c'est devenu plus en plus fort et que même au sein de l'Ukraine, même à Kiev, même à Lviv où elle vit, quand elle se fait repérer comme étant LGBTQ, elle peut se faire attaquer assez régulièrement. Donc voilà. Alors quand elle s'est fait attaquer à Lviv, elle témoigne Olena, elle distribuait des colis d'aide humanitaire. Donc elle était dans une fonction d'aide de la population, de ses camarades et de la population de son pays. Mais elle a quand même été attaquée par des nationalistes ou de l'extrême droite anti-LGBTQ. Du coup, cette communauté a peur de la violence. Non seulement du côté des Ukrainiens, mais encore plus du côté des Russes. Parce que alors là, comme Olena elle témoigne, elle raconte pas mal de choses, dans le Donbass notamment, pas mal d'histoires ont circulé quand les Russes et les pro-russes ont repris le pouvoir, puisque là on a des témoignages de LGBT torturés, harcelés, même des assassinats pour des questions d'orientation sexuelle. Il y a une autre militante LGBT, Vera Tchernina, qui raconte que l'occupation russe et des pro-russes dans le Donbass a été critique et que elle a d'autant plus peur d'une occupation russe sur le reste de l'Ukraine, puisque c'est à nouveau de plus gros risques pour cette communauté, parce que les Russes sont porteurs d'une idéologie réactionnaire très très forte sur ce domaine-là. Voilà. Alors, il y a un mouvement, et du coup, un mouvement fort là d'LGBTQ, alors fort à l'image de l'Ukraine, de participer à la guerre, de se montrer. Alors, il y avait déjà eu ça lors de la guerre qui a commencé il y a longtemps dans le Donbass, où il y avait un régiment militaire qui s'affichait avec un uniforme et une licorne, et c'était des personnes genrées différemment, qui s'affirmaient, qui se montraient. Ils avaient même défilé lors d'une Gay Pride avec leur habit militaire et leur régiment ne correspondant pas à ce que voudraient les militaires en général et grande partie de la société ukrainienne. Donc il y a eu des choses. Et là, les enjeux sur la guerre en Ukraine, c'est la même chose. Donc il y a un mouvement, a priori chez LGBTQ, pour montrer qu'ils combattent aussi. Parce que ce qui leur avait été reproché après l'Euromaïdan, notamment par les nationalistes qui sont les mêmes, qui sont réactionnaires, homophobes, etc., c'est de ne pas avoir participé à cette révolution, en quelque sorte. Or, ils avaient participé, mais ils n'avaient pas été visibilisés. Donc là, l'idée dans la résistance actuelle, c'est d'essayer d'être visible, pour montrer que ce sont finalement des citoyens, des citoyennes comme les autres. Donc les enjeux dans une guerre peuvent être aussi importants sur des communautés comme la communauté LGBTQ. Alors, si on va juste à côté, un pays qui a peur, la Lituanie, il y a pas mal de choses liées aux enjeux de la guerre en Ukraine qui retombent sur la Lituanie et qui retombent sur la communauté LGBTQ. Pourquoi ? Parce que en fait, la partie réactionnaire du pays profite un peu de la terreur qui s'empare de la société lituanienne à cause de la guerre en Ukraine pour dire non mais c'est pas le moment de réformer le pays et notamment de donner des droits aux LGBTQ. Et il faut plutôt rester sur quelque chose qui ne soit pas clivant et on va pas faire évoluer les droits parce que c'est clivant, parce que etc., etc. Ils prennent plein d'excuses. Et on a en Lituanie donc des lois qui devaient être votées améliorant l'égalité des droits pour toutes et tous, qui n'ont pas été votées avec cette excuse-là. Alors c'est porté entre autres par un truc qui s'appelle, c'est assez drôle, c'est très orwellien comme nom, s'appelle la Free Society Institute. Alors c'est un truc qui semble instrumentalisé par Moscou, hein, bien évidemment, et qui promeut donc la famille dite traditionnelle, avec le côté religieux derrière, hein, puisqu'il y a toujours la religion derrière tout ça. Alors, il y a eu pas mal d'articles en Lituanie pour essayer de dénoncer ce qu'ils sont arrivés à faire, c'est-à-dire faire repousser pour l'instant l'examen de certaines lois qui devaient améliorer les droits. Et ce qu'on voit arriver en Lituanie et en Ukraine et ailleurs dans le monde, c'est que ces forces traditionnalistes, ces forces réactionnaires, elles sont alimentées par Moscou. Moscou qui s'autoproclame défenseur de la famille traditionnelle, dernier baston des valeurs chrétiennes. Et ben Moscou embrigade tous ces gens qui sont du même avis que Moscou, mais qui sont finalement le porte-parole de la Russie au sein de ces pays et qui propagent cette idée réactionnaire. Puisque Moscou, enfin la Russie s'est déjà positionnée hein, dans les différents combats. Elle a dit on combat l'Europe et les États-Unis pour leurs idées libérales. Et on parle bien sûr des droits LGBTQ. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais a été votée une nouvelle loi. Donc c'est à Moscou, on bascule à Moscou. C'est les députés de la Douma qui ont voté cette loi. Alors c'est tout neuf, hein, c'est d'aujourd'hui. C'est à la première lecture, il y aura plein de retours, mais il n'y aura aucun changement, qui est une amélioration, d'après eux, de la fameuse loi là, contre la propagande LGBT, qui avait été votée sous l'impulsion de Poutine et à l'arrivée de Poutine contre tout ce qui pouvait, je cite, faire la propagande de l'homosexualité. Et là, ils sont allés encore plus loin. Donc, il y a beaucoup plus d'interdictions qui ont été votées. Une vraie homophobie d'État qui était déjà présente et qui passe un nouveau cap. Donc, aujourd'hui, avec la nouvelle loi, les interdictions vont concerner les médias, Internet, la littérature, le cinéma, la publicité. Tout ce qui peut montrer une relation sexuelle non traditionnelle, entre guillemets, c'est-à-dire non hétéro, tout ce qui peut parler de changement de sexe, de questions de genre, tout ça, cette fois-ci, c'est définitivement interdit en Russie. Et la Russie se vend comme étant vraiment le pays porteur de cette réaction de la lutte contre l'égalité des droits. Donc en fait, à travers la guerre en Ukraine, ce qui se passe, il n'y a pas qu'une guerre de territoire, il y a aussi une guerre d'idées, et notamment fortement sur le droit des femmes, puisqu'on ne parle pas, mais c'est la même chose sur le droit à l'avortement, et le droit de la communauté LGBTQ à avoir la même égalité de droit que les autres. Voilà. Et dernière petite info sur cette rubrique sur l'égalité des droits, c'est deux dictionnaires français qui se sont fait choper. Les dictionnaires sont des fois à la pointe de la modernisation, des fois pas. C'est l'association de défense des familles homoparentales qui est allée gratouiller chez Larousse et chez Robert, hein, les deux principaux éditeurs de dictionnaires en France, qui menacent même de poursuite. Pourquoi ? Parce que, par exemple, Robert désignait la famille sur son site internet comme étant le père, la mère et les enfants. Voilà ce que c'est qu'une famille. Alors déjà, des gens qui n'ont pas d'enfants, c'est pas une famille. Et il faut qu'il y ait forcément un père et une mère, il ne peut pas y avoir deux personnes de même sexe. La même chose chez Larousse, qui disait que sur le site internet de Larousse, qui dit une famille, c'est le père, la mère, ou l'un des deux, et les enfants. Donc c'est une vraie définition homophobe chez les deux. Alors il y a eu deux réactions assez différentes. La réaction du petit Robert, qui a fait son mea culpa, hein, la directrice Géraldine Moinard a assuré que c'était une erreur, qu'il pouvait vérifier sur la version papier de l'ouvrage, dans laquelle la définition était neutre, c'était écrit une famille c'est les parents et les enfants, dans la définition qu'il faisait. Donc c'était beaucoup mieux. Donc ils ont dit voilà, la critique est totalement fondée. On plaide coupable. Le site internet va être mis à jour. Le dictionnaire l'est déjà depuis cette rentrée, puisqu'il y a, j'imagine, une rentrée des dictionnaires aussi en septembre. Chez Larousse, par contre, là, l'homophobie est assumée, puisque Larousse explique, je cite, préférer retransmettre dans la langue les évolutions de la société après observation sur de long terme, afin de ne pas céder aux effets de mode. C'est drôle, ou pas, ou c'est triste, ou c'est horrible. Pour eux, les familles homoparentales sont donc des effets de mode. Alors que ces familles existent depuis des dizaines d'années, alors plutôt dans l'ombre avant, et que maintenant elles ont acquis des droits. Et Larousse, ni à l'époque où elles étaient dans l'ombre, ni aujourd'hui, ne veut reconnaître l'existence de ces familles. Une vraie action, une vraie prise de position homophobe. Donc vous avez le droit de plus acheter de dictionnaire de cette marque-là. De son côté, l'Académie française, qui est toujours un peu à la ramasse aussi, s'est quand même engagée à prendre les considérations proposées là par la défense des familles homoparentales dans sa prochaine édition de 2023. Donc ça progresse quelque part et des fois pas du tout. Voilà pour ma rubrique égalité des droits.
Alors je vais passer tout de suite à ceux et celles qui sont trop riches.
Ah bon, tu sautes.
Ouais, je saute. J'y vais cash dans le trop riche et dans le pognon, on va en parler tout de suite. Alors d'abord, juste pour remettre d'aplomb un peu les choses, on a entendu parler du salaire de monsieur Mbappé.
Oui.
Vous savez donc, un joueur de football. Vous avez le droit de pas bien aimer le football et même de pas savoir qui c'est pas grave. C'est juste pour vous dire qu'il y a quand même plein d'autres gens qui s'y intéressent. Et ce qui est marrant, c'est qu'on va quand même aduler des gens qui ont des salaires qui dépassent quand même l'indécence. Alors, on a beaucoup parlé de ces 600 millions et quelques, mais en fait, tout ça, c'est à la fin. Il faut juste revenir au quotidien et à la réalité de ce que c'est que d'un salaire de... Monsieur Mbappé. Alors, il paraît qu'il a triplé son salaire. Donc là, par mois... faut revenir au quotidien quand même, hein, ou en tout cas à la mensualité.
Plus qu'on aura dans toute notre vie.
6 millions d'euros par mois.
C'est ça.
Alors, tout de suite, que moi j'ai trouvé sur les sites internet, c'est qu'on nous mettait entre parenthèses le net après impôt. Comme si jamais, en fait, déjà on connaissait la capacité aujourd'hui de son taux d'imposition, parce que pour ça il faudrait connaître tous ses revenus, et peut-être qu'il y en a qu'on ne connaît pas encore tout à fait.
Sûrement.
Mais du coup, c'était comme si jamais, en fait, on voulait l'excuser d'avoir 6 millions, parce qu'en fait, il allait en toucher, comme je l'ai lu quelque part, que 2,7 millions, et que donc, bah, c'est pas 6 millions, en fait, c'est que 2,7 millions, hein, qui va se mettre dans la poche. Non, mais ça reste même
par
indécent.
Oui.
Hein, voilà. Et puis surtout, c'est qu'il a touché une prime de signature. Je suis sûre que vous, quand vous signez votre petit CDD, là, et ben, vous touchez pas une prime de signature, même avec votre CDI, et parce que lui, il a touché 180 millions d'euros. Alors. Ça va être payé en trois fois, hein, parce que quand même, faut pas pousser, on parle de millions d'euros. C'est quand même une somme absolument incroyable. Et puis, il a une prime de fidélité. Je sais pas si toi, t'as une prime de fidélité, s'il reste jusqu'au bout. C'est-à-dire que moi, vous voyez, par exemple, j'ai pas de prime de fidélité. Alors, je peux peut-être avoir une prime, mais enfin, pas de fidélité de 70 millions d'euros à la fin de l'été, c'est pas mal. Voilà, donc évidemment, ça fait 210 millions d'euros ramenés à l'année, hein, comme ça. Oui, avec mes grands bras, je fais un geste pour montrer l'année. Il paraît que c'est un quart du budget du Paris Saint-Germain. Donc, moi, je pense que quand vous payez votre billet pour aller au Paris Saint-Germain, en fait, vous payez juste le salaire d'un joueur, en tout cas pour un quart. C'est quand même complètement hallucinant de vouloir encore aujourd'hui aller au stade de foot pour aller voir des gens qui touchent des salaires absolument faramineux. Donc, je vais écouter et continuer avec les gens qui sont trop riches parce que vous avez entendu ça. Hein, on avait appris par Mediapart que notre président bien-aimé de la région Auvergne-Rhône-Alpes, monsieur Wauquiez, organisait des dîners dits fastueux. Hein, à 1100 euros et quelques par convives. Donc ça faisait tout ça du 100 000 balles hein, quand même pour un dîner au château du Beaujolais. Bon, bah Mediapart, tiens, s'excuser, ils ont fait une erreur.
Ah bon ?
En fait, il manque 50 000 balles.
Ah oui, c'est encore plus cher.
C'est encore plus cher, puisqu'il manquait 50 000 euros de conseils pour organiser cette petite chose. Donc, monsieur Wauquiez n'est pas gêné. Hein. Là aussi, on a un futur, peut-être, en tout cas, un prétendant à la prochaine élection présidentielle pour le Parti Les Républicains. Bon, bah, on voit déjà qu'en fait, il aime bien gaspiller l'argent, hein, quand même, et qu'il organise surtout des trucs pour les riches. Jamais trop riche, c'est toujours bien connu. Donc voilà, c'était juste pour dire que des fois la presse elle se trompe, mais elle sait s'excuser tout de suite et ramener les bons chiffres hein, dans la réalité. Alors je suis en train d'hésiter sur la poursuite que je vais donner à tout ça. Je pense qu'on va continuer avec cette autre star parce que s'il y a des gens qui sont prêts à aller regarder des matchs de foot ou aller regarder à la maison, hein, ça revient au même. Hein. Il y a un moment, il faut quand même... je sais pas, peut-être se remettre en question deux secondes. C'est pareil avec les stars aussi de la musique, par exemple, qui peuvent parfois gagner très bien leur vie et pas particulièrement à cause de leur musique. C'est le cas donc de cet artiste Kanye West, dont tout le monde a beaucoup parlé ces derniers temps, en particulier lors de son arrivée à défilé de mode à Paris, avec son t-shirt White Lives Matter, reprenant donc ce slogan
de l'extrême droite américaine,
qui était lui-même un slogan repris de la lutte des Noirs aux États-Unis d'Amérique contre les violences policières, contre la discrimination et contre le racisme. Ça a donc fait causer, puisqu'il ne s'agissait pas d'une espèce de
provoque
d'artistes noirs qui voudraient dire regardez, je joue avec les mots des blancs.
Ce qui aurait pu marcher, hein, du coup.
Ce qui aurait pu. Sauf que monsieur Kanye West est connu pour être un pro-Trump qui a relayé aussi des choses complotistes. Et ce qui n'a pas plu ces derniers temps, ce sont ses derniers propos racistes et antisémites qui ont fait qu'il y a un certain nombre de gens qui sont en train de le lâcher. Alors, par exemple, c'est Creative Artist Agency qui a décidé de ne plus gérer ses tournées. C'est ce qu'on a appris le 24 octobre. Alors, il faut savoir que quand même, cette agence représentait Kanye West depuis 2016. C'est une des agences les plus importantes d'Hollywood, donc c'est pas rien. Elle a décidé de rompre le partenariat. Il faut se dire quand même que les gens, là dont je suis en train de vous dire qu'ils rompent, ils vont perdre de l'argent. On va y revenir avec Adidas. Oui, je suis déjà en train de vous raconter... partie de mon sujet. MRC, qui est une société de production qui venait de terminer un documentaire sur Kanye West, a décidé de pas sortir le film. C'est-à-dire que le film était monté, fini, et ben finalement, il paraît que ça va être trop compliqué, que c'est problématique, et que en fait, les responsables de ce documentaire ont décidé de ne pas utiliser et de diffuser ce reportage. Alors on peut se demander si un jour il sera remonté avec les trucs antisémites et racistes à l'intérieur, nous verrons bien. C'est aussi quelqu'un, disons, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est dans la mode, hein, il a sa petite collection à lui. Donc quand il y a des gens comme Anna Wintour, vous savez, cette espèce de féroce bonne femme qui gère Vogue aux États-Unis Amérique, qui est censée être la papesse de la mode, qui serait d'une autorité sans conteste. Elle a décidé que monsieur Kanye West ne serait plus jamais dans les pages de Vogue suite à ses propos racistes et antisémites. Et puis il y a d'autres choses, hein. On a par exemple Gap qui a décidé qu'elle allait retirer de ses magasins, c'est ce qu'on a appris cette semaine encore là, hier je crois, tous les produits de la collaboration avec Kanye West, parce que Kanye West, il a des collaborations comme ça avec un certain nombre de partenaires de la mode et du textile. C'est le cas aussi de Balenciaga, qui a décidé la semaine dernière de rompre avec Kanye West. Et puis on a Twitter et Instagram, hein, qui se sont crispés un petit peu. Alors il faut savoir que Twitter avait fermé le compte, suspendu, comme on dit chez Twitter, le compte, après les propos donc antisémites, hein, de cette publication qui enfreignait donc les règles de Twitter. Il a été aussi suspendu d'Instagram. Et finalement, bon, les comptes sont revenus, parce que ça dure jamais bien longtemps aussi avec ce genre de personnalité, malheureusement. Vous avez peut-être aussi vu, en rapport à cette interdiction, la banderole accrochée par des membres d'extrême droite à Los Angeles, qui disait « Kanye a raison à propos des juifs », évidemment c'était écrit en anglais, et avec une autre banderole qui disait « klaxonnez si vous êtes d'accord ». Donc ça veut dire qu'il y a aussi des gens chez les suprémacistes qui en sont venus à soutenir un homme noir, Kanye West, qui s'attaque donc aux juifs. La haine des juifs est quand même quelque chose d'extrêmement partagé, il faut quand même se le dire, quelle que soit la couleur de la peau. Donc on apprend comme ça, il y a même son ex-femme Kim Kardashian qui a fait une espèce de tweet sans vraiment le citer, mais en tout cas en disant que l'antisémitisme c'était vraiment un truc horrible. Donc il se fait un petit peu lâcher aussi par ses proches, par ses amis artistes. Et puis évidemment, ce qui a beaucoup fait causé, c'est son partenariat avec Adidas, parce que Adidas était un grand partenaire. Adidas a plein de partenaires, hein, avec lesquels on crée des godasses.
Comme toutes les marques de sport. Ouais.
Exactement. Mais c'est vrai que voilà, ils ont leurs chaussures que vous allez payer très très cher, parce qu'en fait, c'est justement quelqu'un de connu qui l'a fait sans que ce soit pour autant absolument miraculeux. Donc finalement, Adidas a décidé d'arrêter immédiatement la collaboration avec Kanye West. Bon, immédiatement, on va revenir un peu dessus, parce qu'en fait, il a fallu qu'un certain nombre d'organisations pour les droits des juifs et des juives aux États-Unis d'Amérique fassent pression très fortement dans les médias et sur les réseaux sociaux contre Adidas pour qu'il y ait une réaction. Parce que la première réaction d'Adidas a été dit, on est en train de regarder ce qui va se passer, ce qui se passe et on va tenter d'y réfléchir et on va revenir vers vous pour vous dire ce qui se passe et quelle est notre décision. Sauf que ce côté un peu flou de justement pas immédiat, ça a agacé un certain nombre de personnes aux États-Unis d'Amérique et ce qui fait que du coup cet équipementier sportif a décidé de rompre sa participation avec Kanye West. Alors, il faut savoir que tout de suite on a su que Adidas allait perdre beaucoup 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 d'argent, mais Kanye West aussi, parce que ça représente beaucoup d'argent aussi ce partenariat avec Adidas. Donc on peut penser que pour l'instant il y a une perte d'affaires à peu près de 500 millions d'euros pour Adidas. C'est beaucoup d'argent, hein, il faut quand même, juste sur une personne, imaginer un petit peu. Donc il y a des réactions et il faut savoir aussi qu'Adidas s'est fait aussi tacler parce qu'il y en a qui lui ont rappelé son
passé.
Alors tu m'as dit, ah bon, ouais, que je t'ai raconté cette histoire. Je me suis dit que j'allais essayer de te retrouver un petit peu ça, parce que peut-être que vous avez même vous-même oublié d'où venait Adidas. Alors Adidas, au tout début évidemment, ne s'appelait pas Adidas. Et vous savez peut-être pas même pourquoi ça s'appelle Adidas. Donc il s'agit en Allemagne d'Adolf Dassler, qui s'est fait appeler Adi Dassler, fils de Christoph Dassler, qui est savetier bavarois. Paulina, femme de la petite condition ouvrière. Donc il vient pas d'une bourgeoisie, hein, Adolf Dassler. Il a un frère. Et cet Adolf Dassler, au retour de la Première Guerre mondiale, il va donc continuer le travail de papa et continuer la chaussure. Et puis il va commencer à créer des chaussures pour les ouvriers, ça va très bien marcher. Il va fonder sa petite entreprise, la développer, se mettre à créer aussi des chaussures de sport, et tout ça s'insère en fait dans le développement du corps et du sport en Allemagne, qui apparaît très fortement dans les années 20. Donc son affaire marche bien, il demande à son frère de venir l'aider, et son frère Rudolf dit Rudy, et donc ils vont développer toute cette affaire, et puis les années 30 arrivent, et les deux frangins adhèrent au Parti National Socialiste des Travailleurs Allemands, sans aucune gêne.
Donc deux nazis, quoi.
Oui. Il paraît que le plus dedans, c'était Rudy, d'ailleurs. Juste pour dire. Mais bon, oui, tous les deux adhèrent exactement au Parti National Socialiste en Allemagne, donc... voilà, le nazisme, c'est pas un problème. Rudy va être mobilisé dans l'armée, tandis que Adolf, lui, va rester à l'usine pour continuer la fabrication des bottes pour les soldats, évidemment. Et puis, va aussi participer, grâce à son usine, à fabriquer d'autres produits pour l'armée. La fin de la guerre arrive, 1945. Il y a a priori une embrouille entre les frères, dont on viendra pas dessus, parce que ça... je trouve pas tellement d'intérêt, mais toujours est-il qu'ils vont liquider cette entreprise qu'ils avaient créée, qui ne s'appelait pas encore Adidas, hein, qui s'appelait, je vous l'ai pas dit, la Schulfabrik Gebrüger Dassler. Voilà, comme j'ai pas l'accent en allemand, que j'ai jamais appris de l'allemand, vous aurez compris que c'était une fabrique qui portait leur nom Dassler. Donc en 48, ils vont partager ils vont liquider cette entreprise, et puis ils vont partager les biens, et puis créer chacun de leur côté une structure. Et c'est comme ça que Adi, donc Adolf Dassler, va prendre Adi, son prénom, Das, le début de son nom, et créer donc Adidas, tout simplement. Voilà, en 1949. Donc tout ça pour rappeler, son frère va créer Puma. Hein, voilà, non mais je veux dire, dans la famille...
C'est deux marques créées par des nazis, quoi. Oh putain.
Je suis très heureuse d'ouvrir l'esprit ce soir.
C'est l'enfer.
Voilà, vous regardez les godasses que vous avez au pied. Alors évidemment, depuis...
Non, mais c'est... Ouais, ils n'ont pas été du coup poursuivis pour leur activité. Et
évidemment.
Mais par contre, ça a été dénazifié après.
Oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que voir qu'il y a des gens qui ont quand même toujours cette mémoire et cette histoire, et qui aujourd'hui, même si Adidas n'a rien à voir là-dedans, oui, sait que se faire traiter de nazi, c'est très mauvais. En tout cas, il a donc perdu un certain nombre de contrats, Kanye West, et il s'est dit, pas gêné, je suis moi le roi du rap, j'ai plein de pognon, il est très riche, hein. Oui. Je vais aller trouver un autre partenaire, et j'en ai rien à péter. Il s'est donc pointé dans les locaux de Skechers, qui est une autre marque, hein, de basket, voilà, qui a été fondé par Robert Greenberg. Il s'est fait ramener à la porte aussitôt. Il n'avait pas eu le temps, je pense, de monter dans un ascenseur. J'en sais rien en vrai, mais j'imagine
la scène.
Qui avait
fondé la marque, en fait.
En fait, il s'est pointé sans avoir rendez-vous. C'est ce qu'a expliqué ce groupe. En expliquant, Skechers n'envisage pas et n'a pas l'intention de travailler avec West. Nous condamnons ses récents propos qui divisent et nous ne tolérons pas l'antisémitisme ou toute autre forme de discours de haine. La société tient à souligner à nouveau que West est présenté à l'improviste et sans y être invité au ciel social de Skechers. Bon, ce qu'il n'avait pas peut-être mis dans son petit cerveau, Kanye West, c'est que Robert Greenberg et son fils Michael sont juifs et qu'ils n'ont pas du tout apprécié les propos antisémites et racistes de Kanye West. Donc il s'est fait foutre dehors, pas coup de pied, pas coup de godasse, mais c'était pas loin. Donc voilà, juste pour dire que les riches, ils ont des problèmes et qu'ils se croient un petit peu sans gêne. Alors, je vais continuer avec mes très riches. Je vous ai parlé la semaine dernière
De qui ?
Pas d'une première ministre qui a pas bien tenu longtemps, moins longtemps qu'une laitue, et que donc il y avait à avoir bien évidemment un remplaçant ou une remplaçante. On a donc un remplaçant, on s'y attendait un peu, il s'agit donc de Monsieur Sunak, 42 ans, ex-premier ministre de Boris Johnson, qui devient donc le plus jeune premier ministre du Royaume-Uni depuis 200 ans, ce qui est quand même en soi toute une affaire. Et puis surtout...
Et le plus riche.
Surtout, ce qui a fait aussi beaucoup parler, c'est qu'effectivement, on a enfin quelqu'un qui n'est pas blanc, ce qui est vachement bien. Sauf que les gens, à force de se braquer sur la couleur de peau, on en oublie quand même la lutte de classe, et qu'il faudrait bien lier les deux, vous voyez. Mmh. Que, on n'oublie pas d'où on vient, qui on est, et pourquoi on lutte. Parce qu'effectivement, c'est bien, alors parce que ça va lui amener du racisme, ça lui en a déjà amené, ça va continuer. Sauf que du coup, en termes de lutte de classe, bah, effectivement, comme tu l'as dit, il est quand même vachement riche. Il paraît qu'il est plus riche que Charles le Troisième. C'est pour vous dire hein, que quand même être plus riche que le roi, c'est pas simple. Alors de lui-même, en fait, Monsieur Sunak n'est pas né riche. Il est venu effectivement d'une famille d'immigrés indiennes. Bon, un père médecin en santé publique, ai-je lu, d'une mère pharmacienne. C'est pas non plus l'ouvrier, hein, voilà. Mais il a su faire fortune, et puis il a une grosse fortune qui est due à son mariage avec donc sa femme Ashkata. Akshata, excusez-moi, j'écorche son prénom, Murthy, qui elle par contre vient d'une famille extrêmement riche, elle est une héritière hein, comme on dit, donc les millions ils viennent essentiellement de son mariage et de sa femme. C'est bien pour une fois que ce soit la femme, hein, parce qu'on nous dit toujours que c'est les bonhommes qui tiennent le pognon, là c'est elle qui tient l'argent. En tout cas, lui, depuis, il a su faire aussi fortune, puisqu'il a fait des études, ils se sont rencontrés dans les grandes universités aux États-Unis d'Amérique, où ils ont vécu avant de s'installer en Grande-Bretagne. Mais il a une fortune aujourd'hui qui est estimée à 840 millions d'euros par la presse britannique, ce qui n'est pas rien.
Hein ?
Il paraît que c'est donc deux fois plus élevé que le couple royal. Moi, je suis quand même épatée. Donc, il a été comme Monsieur Macron, hein, dans la finance, dans la banque. Et c'est là où tous ces gens ont fait du pognon et sont devenus des grands libéraux. Ils l'étaient déjà avant, ils le sont un peu plus. Donc, il est vraiment, lui, dans la méritocratie. C'est-à-dire, on réussit à la poigne, on garde le pognon. Et on le rend jamais à l'État. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Donc on se demande pas trop comment il va gérer la suite. Hein. On a un peu une vague idée. Mais pour vous donner quand même une idée, il a une maison donc à l'ouest de Londres qui est estimée à 7 millions de livres. Il a aussi un manoir dans le Yorkshire acheté à l'époque pour 1,5 million de livres. Il paraît que maintenant ça vaut beaucoup plus puisqu'il y a une piscine intérieure d'un montant de 400 000 livres. Je vous laisse faire la...
Ah, j'aime bien les piscines intérieures, moi.
Ouais, moi aussi.
C'est pas mal, ça.
Je vous laisse faire la petite conversion, hein, si vous voulez. 400 000 livres, il y a une salle de sport, un court de tennis, il y a un bain, un remous, annonce donc la presse britannique. Et il paraît que ça fait un peu causer quand même, parce que pendant que les Britanniques font des efforts pour payer leur facture d'électricité, lui, ben, il a pu se payer une piscine chauffée, bah oui, tout ça bien chauffé, puisque les Guardians est allé même jusqu'à calculer quel était le coût de l'énergie de tout ça. Donc le Guardian nous explique qu'il y a une piscine de 12 mètres sur 5 et que ça coûterait 14 000 livres de l'électricité pour chauffer annuellement cette piscine, nous explique le Guardian, qui a fait des calculs et qui dirait que ça fait 6 fois la facture énergétique moyenne d'une famille. Donc ça fait quand même un peu causer. Surtout que Monsieur Sunak, il est connu aussi pour être habillé avec du luxe. Il a des costumes sur mesure, des jolies montres. Je veux dire, c'est quelqu'un qui aime avoir de l'argent, qui aime l'avoir sur lui, être bien installé, voilà. Et puis, ce qui avait fait aussi un peu causer, c'était que donc sa femme a été longtemps non domiciliée au Royaume-Uni, c'est-à-dire qu'elle a pas payé ses impôts au Royaume-Uni, ce qui a fait un peu causer. Mais ce qui est quand même malheureux, c'est qu'en fait, ça fait pas tellement causer que ça, finalement. On a la presse britannique, qui est beaucoup plus, vous savez, dans le côté chou gras que chez nous, mais une fois que tout ça est dit, ben voilà, on a donc un Premier ministre de 42 ans, ultra-libéral, très riche, effectivement indien, ce qui est plutôt bien, pour les non-discriminations. Mais pour le reste, ça va pas changer la face du monde, et certainement pas des plus pauvres. Je vais continuer aussi avec une affaire que j'ai appris, c'est que les laboratoires d'analyse ont décidé de faire une mini-grève. Alors, ils vont pas vous empêcher de vous donner vos résultats sur le Covid-19. Ne vous inquiétez pas. Quand vous allez vous faire dépister, on vous donnera toujours les résultats. Par contre, les laboratoires ont annoncé ne plus vouloir déposer sur la plateforme nationale SI. TEP, hein, vous savez, ce machin qui rassemble en fait tous les tests de dépistage pour savoir où en est l'épidémie, ont décidé donc à partir d'aujourd'hui de ne plus déposer les résultats de ces tests parce que les laboratoires ont décidé de grogner contre le rapport, le budget prévisionnel, excusez-moi, 2023 de la Sécurité sociale. Ces laboratoires s'estiment ne pas être assez bien payés. Donc pour faire ce travail, du côté de l'État, on leur répond que, pardon, mais d'après la CNAM, le chiffre d'affaires de la profession a grimpé de 95% entre 2019 et 2021. Largement, d'ailleurs.
Oui, c'est relativement logique.
Des tests de dépistage du Covid. Ah bah, c'est peut-être logique. Mais on l'a retrouvé que la logique, elle est qu'ils voudraient plus de pognon.
Bah, c'est normal aussi.
Apparemment, le chiffre d'affaires du secteur, c'est 9 milliards d'euros. C'est pas rien, hein, en termes de santé, quand même. Il faut le savoir. Je suis pas sûre que les gens, tous soient très bien payés. Par contre, il y a des gens, a priori, qui s'en mettent quand même plein les poches. Voilà, vous l'avez eu en doublon. Donc, il y a beaucoup d'argent, et là, ça fait grincer des dents, bien évidemment. Par contre, du côté du gouvernement, on n'ose pas trop appuyer là où ça fait mal, en disant, oh là là, vous êtes trop riche, il va falloir être moins riche, parce que bon, comme c'est des gens qui aiment être riches, ils aiment pas accuser les autres d'être trop riches. Mais voilà... ça fait un peu quand même grincer. Et puis, on parle beaucoup du patron de Total et de son pognon.
Mais il y en a d'autres.
Mais il y en a d'autres, et d'autres dont on parle moins. On parle beaucoup de Total d'une manière générale, parce que c'est une entreprise qui est accusée de polluer, mal payer une partie de ses effectifs, en tout cas de pas redistribuer correctement ses bénéfices. Mais on ne parle pas trop, on parle beaucoup du pognon de son patron, hein. Mais on pourrait parler du PDG de Schneider Electric, qui n'a pas l'air de vouloir laisser sa place qu'il va occuper jusqu'en 2025. Il est bien moins connu que Patrick Pouyanné, mais Jean-Pascal Tricoire a beaucoup d'argent. Il faut dire que depuis qu'il règne chez Schneider Electric, il a, ça fait 15 ans, accumulé pas mal de petites recettes. Il détient 800 000 actions, pratiquement. Le chiffre que j'ai, c'est 780 239 actions, précisément, selon le rapport annuel du groupe. Alors, le cours actuel que j'ai trouvé, c'était 127 euros. Elles sont valorisées à 100 millions d'euros, à peu près.
Ouais, c'est bien.
Alors, évidemment, c'est que j'ai des actions.
Il les a pas encore vendues.
Mais potentiellement, ça peut faire l'argent. Il faut dire qu'à chaque fois, il a des actions en plus depuis qu'il est là. Hein, c'est des petites primes qu'il obtient facilement. Hein, c'est de l'action gratuite chaque année qu'il obtient en plus de son salaire. Donc, on parle d'une salaire fixe d'un million d'euros, d'un salaire variable de 2 millions d'euros, d'une prime de 3 millions d'euros. Enfin, tout ça très, très, très bien. Il faut savoir aller au-delà de Total pour se rendre compte qu'on a des patrons quand même très, très riche, et que grâce au cours de la bourse, Jean-Pascal Tricoire peut être encore plus riche que tous les autres. Il faut dire qu'en mars 2022, ça a fait causer aussi parce qu'il a obtenu 37 903 actions. C'est moins qu'habituellement, mais en même temps, ça l'empêche pas d'être toujours aussi riche avec ses petites actions. Voilà, c'était juste pour dire que, en fait, il faut savoir aussi, je vais rajouter ça, Jean-Pascal Tricoire, on parle de Schneider Electric ici, hein, mais il est aussi président de la région Asie et président de Schneider Electric Asie-Pacifique. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, il se fait de l'argent ailleurs que dans Schneider Electric ici France. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui touche ailleurs, eh ben, il le déclare pas ici. Bah, oui, vous avez bien compris.
C'est pas mal.
Ah bah, parce qu'en fait, il a résidé à Hong Kong, il réside à Hong Kong depuis 10 ans et là-bas, il paye pas d'impôts sur cette partie. Vous voyez, enfin, tout ça est très pratique, très, très facile, et les riches sont toujours plus riches. Il a aussi un salaire qui est versé au titre de la filiale Schneider Electric USA. Bah ouais, parce que quitte à être patron, autant être présent et patron un peu de partout, c'est plus simple. Et en plus, comme ça, on peut multiplier les revenus. Voilà. Donc, c'était juste pour dire qu'il est très riche. Et je vais terminer avec une information un peu moins marrante pour les effectifs. Ça se passera pas en France. C'est Philips qui a un nouveau patron qui s'appelle Rock Jacobs. Il a l'air pas mal, celui-là aussi. À la mi-octobre, il a succédé à Frans van Houten, qui s'est pas remis famille hein, de la sphère des respirateurs. Je ne sais pas si vous avez suivi cette petite affaire, je peux y revenir. On a appris que Philips va supprimer 4000 postes aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Inde et en Chine pour améliorer la compétitivité. Il y a 80 000 personnes qui sont employées dans le monde chez Philips. Alors d'après Roy Jacobs, sa priorité immédiate est d'améliorer l'exécution afin que nous puissions commencer à rétablir la confiance des patients, des consommateurs et des clients. Cela inclut la décision difficile mais nécessaire de réduire immédiatement nos effectifs d'environ 4000 postes au niveau mondial. C'est ce qu'il a expliqué, Roy Jacobs, avec son arrivée. Alors, il prend la suite donc de Frans Van Houten, qui a été surnommé le docteur Spinoff. Bon, faut dire qu'il a essayé de déconstruire Philips. C'est quoi pour vous, Philips, à la base? Je suis sûr que vous en
c'est
êtes...
C'est des lampes.
Ben voilà.
Non, mais très c'est bien. Plein d'électroménagers.
C'est bien. Eh ben, tout ça, c'est plus vrai. Ça fait déjà un moment. Non, mais on en est tous restés là à penser que c'est des frigos. Des téléviseurs, des ampoules, des CD, hein, toutes ces petites choses que nous avons pu voir chez Philips. Et ben tout ça, c'est fini en fait. Ça fait bien longtemps que Philips ne fait plus les cafetières. Il y a même eu des parties de Philips qui étaient dans la banque et l'assurance. Bon, tout ça, alors la banque et l'assurance a été cédée à ING. La partie électroménager, c'est Whirlpool qui avait repris. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais peu à peu, la marque a effacé sur ses produits Philips. Mais il y avait eu comme ça une petite, c'était resté côte à côte. Les téléviseurs, c'était le chinois TPV qui avait repris ça en 2011. Et puis, ben, les ampoules, ça a été aussi Lumileds, qui a été voilà, fonds d'investissement Apollo l'année suivante. Tout ça s'est fait au fur et à mesure. Et on a donc oublié qu'aujourd'hui, Philips, c'est d'abord des scanners, des IRM, des défibrillateurs, des rasoirs, des brosses à dents électriques. Donc plutôt l'électroménager pour le soin et après tout ce qui va dans la santé et donc les appareils respiratoires. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces affaires? Ça date de 2021. Philips a constaté que ces machines contenaient une mousse insonorisante dans laquelle se détachaient des particules qui peuvent provoquer des irritations, des maux de tête quand elles sont inhalées et ingérées. Le groupe a même parlé d'un risque potentiel de cancer à long terme, donc des choses assez sérieuses. Donc il avait été demandé à Philips en France, hein, 350 000 patients utilisaient ces respirateurs, 1,5 million dans toute l'Europe. Donc il a été demandé en France à Philips de remplacer très rapidement les appareils par précaution. Mais c'est vrai que Philips a mis un peu du temps. Et donc tout ça, évidemment, a coûté cher. Et donc, évidemment, ça a fait perdre de l'argent à Philips. En tout cas, ça a fait une petite plongée en bourse. Hein. Ça aussi, c'est des actions. Hein. On peut toujours dire que c'est pas bien grave. Sauf que du coup, ben, quand ça vaut moins cher, il y a moins d'argent qui rentre, parce qu'il y a moins de prêts, parce qu'il y a moins de circulation. Puis il y a eu des petits problèmes de trésorerie, parce qu'il a bien fallu aussi remplacer assez rapidement tous ces appareils. Mais voilà, c'était juste pour dire que ces 4000 personnes, quand même, qui, sur un PDG qui donc s'est fait mettre à la porte pour être remplacé, qui a déconstruit Philips, qui aujourd'hui est tout autre chose, mais n'arrive toujours pas à exister en tant que tel sur le marché de la santé sans faire des bourdes avec un appareil qui met la santé des gens en danger.
On fait quoi maintenant? Parce que là, tu as tout cassé. Là.
Oh, bah tu peux parler de Macron, non?
Non.
Oh bah, parle d'énergie et d'environnement. Écoute.
Alors, si tu veux. Alors, oui, je vais parler juste une seule petite info que vous avez entendue, peut-être, vu la propagande qu'il y a depuis deux jours. Vous savez peut-être que jusqu'à maintenant, la France n'avait pas de mine pour extraire du lithium. Mais ça pourrait changer à partir de 2026, selon les dires d'Imerys. Alors, Imerys, c'est quoi? C'est un groupe minier français qui veut devenir un fournisseur de référence sur le marché européen, si je cite leur propagande. Alors, l'idée de cette mine qui sera en France, hein, c'est de faire comme ailleurs, essayer de trouver du lithium. Il y a des projets un peu partout à l'échelle européenne. Le seul qui fonctionne, en fait, pour l'instant, c'est au Portugal, dont il y a une mine qui est exploitée. Ursula von der Leyen avait d'ailleurs dit il n'y a pas longtemps que pour elle, c'était un problème que le lithium vienne de l'étranger, notamment d'Asie. Voilà, l'Union européenne était très dépendante. Ursula von der Leyen, je vous rappelle, c'est la présidente de la Commission européenne. Donc ça bouge. Alors ce métal qui est considéré aujourd'hui comme un métal précieux, les gens l'appellent même l'or blanc, ce qui n'a pas beaucoup de sens, mais c'est juste pour dire ce que c'est précieux parce que ça sert à un truc qui est en train de se développer beaucoup. C'est un des éléments de la batterie lithium-ion. Alors c'est celle que vous avez notamment dans vos téléphones. Alors là, les enjeux sont pas si énormes que ça sur les téléphones, mais c'est aussi la batterie qui arrivera dans les bagnoles électriques. électrique. Donc il y a un énorme enjeu sur la bagnole électrique. Pour l'instant, c'est les batteries. Ce sont les batteries qui se chargent les plus rapidement, qui sont les plus légères, qui ont une plus grosse capacité, une densité, on va dire, d'électricité. Donc par rapport au poids. Donc voilà, il y a un avantage énorme et il y a des enjeux très très importants. Donc la France, à travers Imerys, essaye de se faire une place sur ce marché en pleine expansion, notamment pour faire la propagande des véhicules électriques sur les routes. Car l'enjeu est là, de la part de la France, de la part d'Imerys, c'est de sauver l'industrie automobile grâce à son électrisation. Face à ce boom qui a déjà commencé, mais qui a attendu, qui va s'amplifier dans les années qui viennent, il faut pouvoir fournir et fabriquer des batteries, et donc fournir du lithium. La Banque mondiale estime aujourd'hui qu'il va falloir en fournir 5 fois plus qu'actuellement dans les années qui viennent. Donc cette future mine qui est à Beauvoir a tout pour satisfaire l'Union européenne, qui veut, qui se sert des véhicules électriques pour une sorte de transition pseudo-écologique. Ça plaît énormément aux libéraux, qui vont pouvoir se faire plein d'argent. Ça plaît au gouvernement, qui est libéral aussi, et ça plaît aussi aux souverainistes de tous choix, à l'extrême droite notamment, à l'extrême droite souverainiste, c'est la même, parce que, ouais, ça va être 100% français, c'est beau, le lithium français. Et Imerys annonce pouvoir équiper 700 000 voitures par an avec cette mine. Alors c'est de la propagande économique, hein, bien évidemment, mais les enjeux sont forts et le potentiel de la mine semble important. Et depuis hier, ou avant-hier, une grande partie de la presse, La Croix, Le Parisien, Le Monde, Les Échos, j'en passe, et des meilleurs ou des pires, font la propagande de ce projet destructeur de l'environnement. Et tout le monde y va en reprenant quasiment les mots de Imerys et de son communiqué de presse. Mais on rappelle que l'impact environnemental de l'extraction du lithium est ultra mauvais. C'est critiqué notamment pour deux raisons. Une, il faut beaucoup consommer d'eau pour sortir le lithium. Et c'est très énergivore, ça demande beaucoup d'énergie. Et là, coup de poker de Roland Lescure, le ministre délégué chargé de l'industrie, qui est pro-lithium. Il a dit, hop, nous on est meilleurs que les autres parce que on aura une empreinte carbone plus faible que les autres. Il ne dit pas qu'elle sera faible, il dit qu'elle sera plus faible parce qu'on a de l'électricité décarbonée. Et là, une fois de plus, paf, on met en avant l'énergie nucléaire comme la réponse, comme étant la solution à tout, même aux bagnoles, indirectement au lithium. Voilà. Alors, bien évidemment, Roland Lescure, il oublie de répondre aux questions sur l'eau. Hein, comment ça consomme de l'eau? Comment ça on a des sécheresses tous les ans? Comment ça on manque d'eau? Oups, là il n'en parle pas. Donc il y a de la vraie propagande, hein, autour de la bagnole électrique déjà au départ, et autour du lithium en particulier. On a de la propagande autour de l'hydrogène aussi, qui est très très forte. Toutes ces propagandes ont le but d'aider les industriels à se développer et à gagner de plus en plus d'argent dessus. Hein, on fait la propagande, on soutient l'industrie. Et c'est bien évidemment contre-productif sur l'environnement. Et donc la vraie question, hein, que ces entreprises, ces journalistes, ces politiques ne se posent jamais, c'est quelle transition écologique nous voulons. Alors eux, ils veulent vivre de la même manière, avec leur même égoïsme, et quasiment en réduisant un petit peu leur impact sur la planète. Donc ils font le choix de la voiture électrique, hein, qui a un impact un petit peu plus faible que la voiture thermique, et qui permet surtout de délocaliser la pollution, hein, puisque la pollution elle est essentiellement sur les lieux de production des voitures et le lieu de production de l'énergie électrique. Pour le nucléaire, nous, c'est les lieux où on va balancer les déchets pour que nos enfants, nos petits-enfants, pendant 100 000 ans, ils aient une vie pourrie et radioactive. Hein. Donc voilà, donc c'est ça, eux ils vendent cette transition énergétique là, qui est tout sauf une transition, c'est une transition industrielle. Pas écologique, pas énergétique non plus. Alors on change le type d'énergie, mais pas l'impact de cette énergie sur l'ensemble de la planète. D'ailleurs, on le voit, le gouvernement subventionne beaucoup plus la voiture que le vélo. Hein, on peut avoir jusqu'à 7000 euros aujourd'hui si vous achetez une bagnole soi-disant écolo, c'est-à-dire électrique ou nucléaire. Alors que pour un vélo, vous n'avez rien, ou enfin 150 balles, quoi. Donc il y a un vrai choix de subvention de l'industrie automobile. Et ce nouveau projet de mine qui a lieu en France, c'est juste une preuve supplémentaire du soutien du gouvernement, de l'industrie, du capitalisme envers ces technologies destructrices, alors que des solutions existent. Alternative, notamment de développer les transports non polluants ou les transports en commun. Mais ça, ils en veulent pas, en fait, c'est simple. Ici, ils mettaient autant d'argent dans le vélo que dans les bagnoles, ça ferait toute la différence. Et pourtant, il y a eu pas mal d'articles sur les mines. On rappelle que il y a eu pas mal d'articles sur les mines au Chili, où c'est une catastrophe environnementale. Il y a eu pas mal d'articles sur la Serbie. La Serbie, il y avait un projet de mine jusqu'à l'année dernière. Et en janvier, elle a été abandonnée. Pourquoi? Il y a eu des manifestations. Une grosse réaction de la population. Bon, voilà ce qui nous attend, c'est-à-dire ben, des nouvelles luttes pour lutter contre cette destruction de l'environnement que va représenter cette mine au lithium.
Autre affaire... d'environnement, c'est le tribunal administratif de Grenoble qui a ordonné le 25 octobre la suspension de l'arrêté du 20 septembre émise par le préfet de Haute-Savoie. Arrêté qui autorisait l'aménagement d'une retenue collinaire près de la station de la Clusaz, dont le tribunal administratif a stoppé pour l'instant cet arrêté. Alors, il faut savoir que c'est un réservoir de 148 000 m3 qui est censé alimenter la commune en eau potable, pourquoi pas, mais c'est surtout aussi pour fournir de l'eau pour la fabrication de neige artificielle pour les skieurs et les skieuses. Et c'est là où, évidemment, ça pose quelques questions. Alors, depuis le 24 septembre dernier, il y a une ZAD qui s'est installée dans le bois de la Colombière. C'est sur le plateau de Beauregard, au-dessus de la Clusaz. L'idée, c'était de bloquer les bulldozers qui allaient défricher le bois et de pouvoir préserver les 58 espèces qui y sont installées et d'éviter qu'il y ait une machine qui soit créée pour tout ça pour faire la neige artificielle. Parce que, enfin, ça c'est quand même aussi le gros problème. C'est pas que les petits animaux, c'est aussi que quand même on va créer de la neige artificielle. Donc, c'est une décision provisoire, c'est ça qu'il faut se rendre compte, mais ça reste une victoire, mais c'est une décision provisoire, puisque l'idée c'est maintenant d'attendre un jugement de fond sur la légalité de la déclaration d'utilité publique lancée par la préfecture. Ah, le préfet ! C'est beau, les préfets. Il a réagi dans un communiqué mardi. Et il explique, le préfet de Haute-Savoie, prendre acte de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Ça, il n'a pas le choix.
Voilà, il prend acte. Mais il souligne que cette ordonnance de référé ne préjuge pas de la légalité de l'arrêté préfectoral au fond. Très bien, très bien, très bien. Et il rappelle que le projet a été déclaré d'utilité publique après avis favorable du Conseil national de la protection de la nature, de l'autorité environnementale et de la commission d'enquête publique. On sent qu'il boude, le préfet. Quand même, lui, il a émis un arrêté et maintenant on lui dit que...
Il a trouvé des gens pour collaborer avec lui et trouver que c'était pas si pire.
À mon avis, c'est plutôt lui qui a collaboré avec les autres. Bon, quelle que soit la collaboration, elle existe. Surtout dans son communiqué, il explique quand même que l'occupation actuelle du plateau de la Colombière est illégale et doit cesser dans les plus brefs délais. Alors la ZAD, elle espérait être là jusqu'à l'arrivée des bulldozers début novembre, c'est-à-dire là dans quelques jours. Donc c'est bien, ça fait un petit peu de repos quand même, cette chose. Parce que c'est sur une ZAD, surtout, vous allez me dire, il fait pas très froid. Mais quand même, la Clusaz, c'est la montagne. Donc c'est pas tout à fait comme ici chez nous en ville où en plus c'est pollué et tout ça. Mais en tout cas il veut quand même faire dégager tout le monde. Il a quand même dit qu'il est bien recevoir une délégation d'associations, mais peut-être pas les zadistes. Il faudra quand même être un peu constitué en quelque chose, parce que sinon ils sont peut-être un peu sales, on sait pas, allez savoir. En tout cas, du côté des associations de protection de l'environnement qui avaient attaqué cet arrêté du 20 septembre, c'est un soulagement, une victoire, une réussite et peut-être une tentative de venir à bout de ce projet complètement aberrant, parce que créer un truc pour la commune en eau potable, c'est une chose, créer un truc pour que on puisse aller skier sur la neige artificielle, c'est complètement débile. Voilà, c'était une bonne nouvelle.
Alors moi, ma petite brève sur la suite et la fin de l'histoire du Père Rivoire, j'en ai parlé plusieurs fois. Je rappelle, cet été, le gouvernement canadien avait demandé à la France d'extrader le Père Johannes Rivoire, qui se trouve dans un EHPAD à la Croix-Rousse actuellement, qui a 92 ans, qui est poursuivi au Canada pour avoir agressé sexuellement, violé des enfants autochtones dans les années 60 et les années 70. Le Canada vient de donner la réponse, c'est hier très exactement, que la France lui a faite en disant non, on refuse l'extradition et pour que vous puissiez juger ce prêtre pédophile, puisque il explique la loi française interdit l'extradition de ses citoyens et qu'il s'est déroulé trop de temps entre les événements et le dépôt des accusations. Alors bon, on se rappelle que l'histoire, ça a été compliqué pour les enfants autochtones devenus grands d'oser parler et qu'il a fallu du temps, et ça, le temps, c'est compliqué et il faut le laisser, notamment dans les crimes sexuels. Voilà, donc aujourd'hui, le Canada a dit que tous les recours juridiques contre la France et pour l'extradition de Johannes Rivoire sont épuisés. Ils hésitent à mettre un avis de recherche à Interpol, ce qui fait qu'il ne pourra pas être arrêté, sauf s'il sort de France. Bon, à 92 ans et dans l'état où il est, il risque pas de sortir, mais symboliquement, ça serait assez fort qu'il le fasse quand même. Voilà, ce qu'on note, hein, c'est que à travers cette excuse avec une réalité juridique qui est contournable en fait, hein, c'est pas un truc écrit dans le marbre, contrairement à ce qui est laissé entendre, la France continue, donc le gouvernement Macron et tout ça, continue de protéger un prêtre pédophile. Ça c'est assez fort, alors que sa communauté religieuse l'a plutôt rejeté maintenant, parce que c'est trop vu en fait, c'était visible, ils l'ont protégé tant que ça se voyait pas trop. Voilà, alors je sais pas si c'est parce que Macron a fait ça, parce qu'il allait voir le pape et il allait faire des bisous à son ami le pape. En tout cas, voilà, la France soutient encore et toujours un prêtre pédophile.
Alors la dernière fois, je vous ai parlé de cette affaire de droit d'auteur entre une photographe et un travail de d'Andy Warhol, qui est créateur, créatrice, qui est à l'origine et qui ne l'est pas. Est-ce que s'il y a une œuvre originale ou pas ? Eh ben, c'est l'affaire, hein, qu'on a ici en France avec une œuvre Tartuffe, je vous rappelle.
De Molière.
Molière, c'est bien. Donc c'est Georges Forestier qui attaque la Comédie Française et les cinémas Pathé pour un procès en violation des droits d'auteur. Il y a une représentation d'une adaptation du Tartuffe donc de Molière. Et Georges Forestier, c'est un universitaire expert de Molière qui estime qu'il n'a pas eu des droits d'auteur sur cette adaptation pour cette représentation. Alors, on va être très clair, il ne veut pas faire interdire les représentations. Pour lui, ça doit être joué. Par contre, il veut bien avoir l'argent qu'il estime lui être dû. Alors, il y a une pièce en trois actes qui date de 1664, qui n'est pas appréciée par Louis XIV à l'époque. On peut dire que Molière avait une tendance à un petit peu à vouloir égratigner le roi et la religion. Ça ne plaît pas toujours, donc finalement, il va allonger, diluer son Tartuffe et en faire l'œuvre que nous connaissons aujourd'hui en cinq actes. Voilà, c'est plus de personnages, c'est peut-être moins agressif, et puis son Tartuffe sort. Mais a priori, il y avait un autre Tartuffe, et c'est ce que Georges Forestier a voulu créer et publier. Et donc, ce premier Tartuffe, qui s'appelait Tartuffe ou l'imposteur, il va l'appeler le Tartuffe ou l'hypocrite. Et donc, il va tenter de retrouver le travail de départ de Molière. Il va tenter donc d'enlever des personnages, de travailler, et donc va ressortir une œuvre. Et c'est sur cette œuvre qui est aujourd'hui adaptée avec des représentations, qui dit mais attendez, c'est mon travail. Mais ce qu'on lui répond de l'autre côté, c'est que bah non, vous êtes un universitaire, vous êtes un expert et vous avez fait un travail de reconstitution d'une œuvre, c'est absolument pas vous qui l'avez créée. Et donc on vient donc une bataille de droits d'auteur pour savoir est-ce que ce travail de réécriture de recherche, mais qui est aussi une invention. On n'a aucune trace de ce Tartuffe
d'origine.
L'hypocrite, c'est-à-dire ce travail original de Molière, on ne l'a pas. Donc, est-ce que c'est une œuvre originale ou est-ce que ça ne l'est pas ? Est-ce que Georges Forestier doit avoir des droits d'auteur ou pas ? C'est là toute la nouvelle question de ce procès. Moi, je trouve ça fantastique, la culture et l'art et le spectacle. Ça nous amène dans des histoires de pognon, de confrontation, et puis qui est l'œuvre ? Qui est le créateur ? Qui est la créatrice ? Qu'est-ce qu'une œuvre ? Ben voilà. Donc du coup, la Comédie Française, elle, par contre, alors elle a un argument vraiment fort. Elle dit aussi que Georges Forestier a envoyé un mail en disant qu'il mettait gracieusement à disposition le texte de la Comédie Française. Pour autant, est-ce que mettre gracieusement le texte à la Comédie Française, ça veut dire donner des représentations et donc faire du commerce avec ? Je ne sais pas. En tout cas, tout ça est absolument croustillant.
Continue dans la culture, dis-moi.
Ouais, je vais vous. Bah, tu parlais du pape. Alors tiens, je vais faire celle-là puisqu'il nous reste un petit peu de temps. Monsieur Macron a donc rencontré le pape, hein, lundi, hein, et il a offert un livre d'Emmanuel Kant, hein, Vers la paix perpétuelle. Et c'est une première édition, donc c'est censé être un beau cadeau, hein, quand même. C'est pas, il n'est pas allé à la librairie du coin. C'est un beau cadeau. Sauf que du côté des médias polonais, on a grincé des dents à cause d'un cachet ou salle de lecture académique de livres. Ça vient maintenant, c'est en Ukraine, mais en fait, à un moment, c'était en Pologne. Et donc, cet ouvrage, cette première édition, aurait pu être un ouvrage volé par les nazis. Et c'est là où, du coup, en Pologne, on est monté un petit peu en chaleur pour dire, attendez, le président français, Monsieur Macron, offre un livre volé par les nazis au pape. scandale, surtout en Pologne avec le pape, tout ça, tout ça. Ça a été du côté des internautes polonais, vraiment des grandes réactions, hein, quand même. Il a fallu que le ministre polonais des Affaires étrangères monte au créneau, dise qu'il était tout à fait au courant, et il y a eu donc enquête pour savoir d'où venait cette édition. Voilà. Et donc ça a été vendu. Alors il y a eu des enquêtes, l'AFP, l'agence France Presse, a donc fait sa petite enquête aussi ici. Donc le livre a été acheté, cette première édition a été achetée auprès d'un libraire parisien spécialisé dans les livres anciens, on se doute bien, hein, et donc dans les objets rares. Il s'agit de Patrick Hatchwell, qui revient assez fréquemment donc dans toutes les discours de la Pologne, qu'il accuse lui d'avoir donc récupéré un livre volé. Donc il explique qu'il a bien vendu hein, le livre à l'État français, qu'il l'a vendu d'ailleurs, tient-il à souligner, moins cher que ce qu'il aurait pu en recevoir ailleurs. Il n'y a pas de petite manière de se mettre en avant quand même. Mais lui, il explique qu'en fait, il l'a obtenu d'un collectionneur privé qu'il y avait acheté il y a un demi-siècle. C'est son fils qui l'a vendu. Alors, je vais essayer de vous reprendre les trucs. Alors, lui, il explique que ça peut pas venir de la spoliation des nazis. Il en est sûr. Il explique qu'il vient donc de la bibliothèque de la ville, qu'il est sorti de cette bibliothèque entre 1850 et 1870. À l'occasion d'une vente et non pas d'un vol, et en tout cas du coup pas par les nazis puisque c'était au 19e siècle, qu'il est arrivé en France, à Paris vers 1900 dans un libraire, Lucien Baudin, qui est quelqu'un de très connu, hein, qui était spécialisé en particulier dans l'ésotérisme, c'est aussi pour ça qu'il est connu, qui a même une étiquette hein, d'ailleurs sur cette édition remise par Monsieur Macron au pape, qui prouve hein, qu'il est passé par les mains de Lucien Baudin, et qu'ensuite il y a donc ce collectionneur privé dont je vous disais qu'il a acheté il y a un demi-siècle et dont le fils vient de le revendre, et que donc lui il a toute une traçabilité, c'est comme le bœuf. Tout ça c'est marqué, et que donc il faut qu'on soit du côté de la Pologne, on se calme, mais comme quoi un petit livre peut faire quand même une affaire diplomatique assez costaud.
Je crois que c'est 20h01.
Oui, comme on a déjà commencé en avance.
Et ben voilà, c'est la fin de ce Canu Info.
Bah ouais.
Bah c'est tout, faut dire au revoir tout ça là.
Et ben je dis au revoir, écoute, je suis triste.
Ah bon,
on se retrouve la semaine prochaine.
Tu voulais faire encore un truc ? Vas-y,
non,
fais un truc.
Bon, non, y a personne après. Non. Nous allons mettre fin à cette émission.
Mettons fin à cette émission du Canu Info du jeudi 27 octobre 2022. Rendez-vous demain pour un Canu Info du vendredi si l'équipe est là. Et c'est tous les jours de la semaine, 19h-20h, avec une équipe différente à chaque fois pour les Canu Info de Radio Canu. Bonne soirée, bonne semaine, bon week-end, bon tout.
On vous laisse avec la bande musicale de Radio Canu, la meilleure du monde.